bon soir tout le monde.
Bonsoir.
Bon, vous savez que ce soir, c'est un jour de fête.
Ah oui,
oui. De quelle fête?
La fin des fondations.
C'est comme ça. Vous avez l'air donc bien informé. Ah oui, c'est ça. Donc, on est le 24 du mois de Kislev, qui est une date très importante du calendrier.
Oui.
C'est le jour où le général Allenby a reçu les clés de la ville de Jérusalem. Le général Allenby était à la tête des forces alliées britanniques. Qui faisait la guerre aux Ottomans, qui, pour ceux qui se rappellent, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui s'en rappellent, dominait Israël à l'époque. Et quelques semaines après la déclaration Balfour, qui était la première réussite du retour politique d'Israël sur sa terre, et bien quelques semaines après, le 24 du mois de Kislev, le général Allenby arrive à Jérusalem, ce qui lui permet de concrétiser la déclaration Balfour. On peut dire que c'est le premier événement de la Géoula. Et il a reçu les clés de Jérusalem dans un endroit, il y a une stèle commémorative, pour ceux que ça intéresse, derrière la Tachana Merkazi de Jérusalem. Il y a une petite place, comme ça, où il est difficile de se garer. Et il y a là-bas une grande stèle. Enfin, il y a des symboles très intéressants parce qu'il y a une représentation, imaginez-vous, des croisés. C'est-à-dire c'était pour les Britanniques, c'était la vengeance des croisades. Et c'est là qu'il a reçu Jérusalem. Il est donc entré ce jour-là à Jérusalem. Il a passé la première nuit à Hanouka en tant que vainqueur. Donc vous voyez que cette date était prédestinée depuis très longtemps à permettre le retour d'Israël. Ce qui vous explique d'ailleurs pourquoi il se passe quelque chose d'assez surprenant dans la fête de Hanouka qui vient juste après le 25 du mois de Kislev, c'est que l'allumage des lumières qui commence la fête, en fait, se fait à un moment où on ne sait pas si c'est le 24 ou le 25. Parce que ça se fait au coucher du soleil. Et le coucher du soleil, on ne sait pas si c'est déjà à la fin de la, si c'est début de la journée qui vient ou si ça appartient encore à la journée d'avant. Je veux dire, il y a même une tradition qui est qu'il est bon que la mezouza soit sur la droite, la hanoukia sur la gauche, parce qu'au milieu se trouve quelqu'un, celui qui allume, qui est entouré de tzitzit. Le tzitzit, la frange sainte, eh bien, ça se met, on la met entre la mezouza et la hanoukia. Or, les tzitzit ne sont de rigueur que pendant la journée. Ce qui prouve bien que l'heure de l'allumage des lumières, c'est quand il fait encore jour. D'ailleurs, si vous êtes pressé, vous devez partir quelque part, vous avez un rendez-vous, vous pouvez déjà, à partir de Plag HaMincha, juste avant, quelque chose comme 45 minutes à peu près, avant le coucher du soleil, déjà allumer la Hanoukia et en rajoutant de l'huile pour que ça brûle jusqu'après le coucher du soleil. Ce qui veut donc dire que le 24, c'est l'introduction du 25. Pour deux raisons. D'abord, à cause de ce que j'ai dit, et à part ça, pour des raisons mathématiques, c'est que le 24, c'est le chiffre qui vient juste avant 25. En général, pas de l'exception. Alors ça, il y a un fait assez important, c'est que le 24 du mois de Kislev, comme vous l'avez fait remarquer, il y a eu un événement très important à l'époque du deuxième temple. C'est que c'est le moment où les Hashmonaïm étaient en train de se préparer pour faire l'inauguration du Beth Amikdash le lendemain matin. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a eu la victoire sur les Grecs et il fallait bien se préparer pour faire l'inauguration. Et donc vous imaginez bien que le grand prêtre et les Hashmonaïm et les soldats qui avaient fait la victoire, etc., se mettaient sur leurs beaux vêtements pour se préparer. Donc c'est un jour, ça ressemble un peu comme un vendredi, ce que nous faisons ici. Et vous savez ce que dit la Guémara dans le traité d'Avodah Zarah, c'est que celui qui a mangé et celui qui a préparé ses repas avant le Shabbat, il a de quoi manger à Shabbat. Donc cette préparation, nous faisons une petite fête d'avant Hanouka, c'est pas parce que on a oublié la véritable date, parce que c'est la bonne date. Ça, c'était en introduction tout simplement. Maintenant, La question que je me pose, et je suppose qu'une partie d'entre vous sont déjà au courant, vous avez peut-être entendu certains de mes cours, ou les cours du Rafison, c'est que on peut se demander, mais pour, qu'est-ce qu'il aura au Hashmonaïm, les Asmonéens, comme on dit, les Maccabées. Qu'est-ce qu'il leur a pris pour décider que l'inauguration du Beth Amikdash qui avait été profané par Antiochus, ça se ferait le 25 Kislev. Hein? Café? Hachemin? J'ai rien compris.
Non,
si vous parliez clair, ça serait utile, mais...
Non,
vous avez été tombé?
Hanouk le café.
Ah, c'est ça! Hanouk le café, c'est ça. Oui, mais le problème, c'est que... Bon, cette explication, Hanoub et Café, ils se sont arrêtés, ils se sont reposés le 25. Tout ça, c'est très joli, mais c'est des drachotes. Donc, ça se trouve dans la littérature rabbinique. Mais on demande quelle est la raison historique. La raison historique est écrite noir sur blanc dans le livre des Hashmonaïm. Dans le premier livre des Maccabées, il est dit que c'était 3 ans, jour pour jour, après la profanation du Beth Amikdash par Antiochus. Maintenant, Antiochus n'était pas n'importe qui, il n'a pas simplement profané, il a fondé un temple païen dans le Beth Amikdash. Il a introduit une statue de Zeus Olympien dans le Kodesh HaKodashim. Il a fait sacrifier un cochon, rendez compte, un cochon, sur le Beth, sur l'autel. C'est vraiment une cochonnerie.
75 après 25.
Quoi?
Ils sont rentrés le 15.
Une seconde. Et donc, il a fait. Non, mais Antiochus, il a fait ça le 25. Et donc, pour lui donner une pion, pour lui montrer que on réagit à ce qu'il fait, 3 ans, jour pour jour, après qu'il ait fait son inauguration du Beth Amikdash, de son Beth Amikdash à lui, qui était un Beth Amikdash idolâtre, alors les Hashmonaïm ont restitué le culte du temple. Donc, la raison pour laquelle on a fait Hanouka le 25 du mois de Kislev, c'est parce que c'était le jour de Hanouka. Oui, de l'inauguration du, Hanouka veut dire inauguration, du temple païen à Jérusalem. Maintenant, la question qui se pose, mais qu'est-ce qui lui a pris à Antiochus de décider que le jour où il profanerait le Beth Amikdash des Juifs, ça serait le 25 Kislev? Qu'est-ce qui lui a pris? Tout simplement parce que c'était la fête de l'inauguration du deuxième temple, n'est-ce pas? Comme vous l'avez vu dans le livre Haggai, au chapitre Beth, il est dit en toutes lettres, une prophétie qui apparaît le 24 jour, le 24e jour du mois de Kislev, et il est dit là-bas en toutes lettres que c'est le jour où a été fondé l'autel dans le Beth Amikdash, bien qu'il n'y a pas eu d'inauguration officielle, puisque l'inauguration a eu lieu 4 ans plus tard, mais l'autel a été fondé et on a commencé à faire des sacrifices le lendemain, le 25 du mois de Kislev. Donc les Juifs, chaque année, faisaient la fête le 25 Kislev. Antiochus, voyant ça, veut les humilier, il fait sa fête le 25 Kislev. Les Hashmonaïm réagissent, font la fête le 25 Kislev. Et puis finalement, le deuxième temple est détruit. Mais Allenby vient restaurer la fête de Hanouka et lui donne une actualité dans notre modernité le 25 du mois de Kislev. Jusque-là, ça vous...
D'accord.
Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Oui, ces prophètes qui ont organisé l'inauguration de l'autel le 25 du mois de Kislev, ils avaient quand même une raison de le faire. N'est-ce pas? La question est bonne? Je leur donne la réponse. Qui fait que c'est moi?
C'est le jour le plus long de l'année.
C'est le jour le plus long de l'année.
La nuit.
Ah, c'est la nuit. C'est la nuit. Décide-toi, la nuit ou la nuit? Et alors, et aussi, ils auraient pu faire ça également le jour le plus long de l'année? Ou bien ils auraient pu faire ça à l'équinoxe? Pourquoi précisément prendre le jour le plus court de l'année? Ou la nuit la plus longue? Hein? Il faut avoir une raison à ça. En fait, c'est qu'il y avait déjà une fête antérieure. Mais d'où est-ce que vient cette fête? Hein? Non, pas du tout. La raison pour laquelle il y avait une fête le 25 Kislev, c'est parce que c'était le jour de la fête des Lumières. Ben oui, le jour de la fête des Lumières. C'est quoi la fête des Lumières ? Ben, c'est très simple. Vous savez avec quoi est-ce qu'on illuminait avant, avant qu'il y ait l'électricité ? Avec de l'huile. Bon. Comment est-ce qu'on fait de l'huile dans l'Antiquité, dans notre région ? Avec des olives. Il faut bien récolter les olives. C'est quand la récolte des olives ? C'est maintenant. C'est pour ça quand vous promenez dans Yehuda et Shomron, à ce moment-là, il n'y a aucune pierre qui vous est lancée. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de la récolte. Et que si elle couvre feu, c'est fichu avec la récolte de l'huile. Enfin, des olives. Donc, il y a même une halakha pour ça. Vous savez qu'on amène, dans le Beth Amikdash, on amène des prémices. Des prémices des sept espèces d'Eretz Israël. Ces prémices-là, on les amène quand elles arrivent, quand elles poussent. C'est-à-dire, vous avez un figuier, il y a les premières figues qui apparaissent, vous en faites des bikurim. Vous avez une vigne, les premières grappes, vous les présentez en bikurim. Vous avez un olivier, les premières olives, vous les amenez en bikurim. Jusqu'à quand vous pouvez les amener ? Ben jusqu'à Hanouka, c'est là. Pourquoi jusqu'à Hanouka ? Parce que c'est le moment où ça finit. Donc, si vous êtes dans une société agricole, hein, comme c'était chez nos ancêtres, et que vous avez fini la récolte des olives, qu'est-ce que vous allez faire ? Une fête. Évidemment. Une fête de combien de jours ? De 8 jours, évidemment. Comme la fête de Soukhot, quand on a fini d'engranger. On fait, la Torah nous dit de faire une fête de 8 jours. Vous avez fini la récolte des olives, ben vous faites une fête de 8 jours. Et ça, elle représente. Et comment vous allez faire cette fête ? Quel sera le motif central de la fête ? De l'huile, et que vous le faites avec l'huile ? Vous allumez et vous faites des beignets. Et comme c'est l'hiver et que les agriculteurs n'ont rien à faire dehors pendant une nuit d'hiver, ben vous jouez à la toupie. D'accord ? Ça veut dire que il y avait donc une fête des Lumières à l'époque qui était liée à un fait agricole, tangible. Le fait que c'est le moment où la lumière prend son importance. Ça vous explique aussi pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a fallu attendre 8 jours. Il y a un midrash comme ça. À l'époque des Hashmonaïm, il a fallu attendre 8 jours pour faire de l'huile pure. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'attendre 8 jours ? Parce que c'était le moment où on commençait à presser des olives. Avant, il n'y avait pas. Il n'y avait plus d'huile. L'huile de l'année dernière était finie. Donc c'est le moment où il fallait commencer. Donc c'est pour ça que ça leur a pris 8 jours. Donc, non, ça, mais ça explique toujours pas. Parce que pourquoi est-ce que les prophètes ont pensé qu'il fallait inaugurer l'autel le jour de la fête des Lumières et pas un autre jour ? Vous avez compris ma question, en fait ? Ouais. C'est pas cette tête-là, c'est une question. C'est parce que. Est-ce que la présence de Dieu était manifeste dans le temple ? Oui ou non ? À l'époque du premier temple, nous savons avec certitude, il y avait manifestation de la présence de Dieu, la Shekhina. Qu'en est-il de l'époque du deuxième temple ? Il n'y avait pas. N'est-ce pas ? La Gemara nous dit, le Talmud nous dit expressément, que la Shekhina n'a pas résidé dans le deuxième temple. Maintenant, vous regardez dans les prophètes de l'époque, ils vous disent Ineni ba veshachati betocher, voilà que je reviens résider en toi. Bon, alors, comment les prophètes n'ont pas étudié la Guémara ? La Guémara dit qu'il n'y avait pas la Shrina. Et les prophètes disent qu'il y avait la Shrina. Ça veut dire qu'il y avait une mini Shrina. Il y avait une Shrina, mais c'était pas la même chose. C'était pas si manifeste que ça. C'était une petite Shrina. Shrina minuscule. Alors, à quoi ça ressemble une Shrina minuscule ? Ça ressemble à une petite bougie dans l'obscurité. C'est comme ça qu'était ressenti le deuxième temple par nos ancêtres, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette inauguration ce jour-là. N'est-ce pas ? Maintenant, vous allez sur le bout de la langue, mais pourquoi ? Est-ce qu'il y a une fête des Lumières, justement, agricole, précisément à cette époque ? Alors, c'est dans le traité de Avodah Zara, page 8a, où il est dit en toutes lettres que le premier homme, quand il a vu que les nuits devenaient de plus en plus longues, il s'est dit, c'est terrible, c'est que le monde est plongé dans l'obscurité à cause de moi. Il a fait un jeûne de 8 jours Et puis quand il a vu que les nuits commençaient à se raccourcir et le jour à se rallonger, alors il s'est dit, ah, c'est donc dans l'ordre de la nature, il a fait une fête de 8 jours. Et comme le jour le plus court de l'année, c'est le 21 décembre, et que ça prend quand même quelque chose comme 3 jours pour se rendre compte que le jour s'allonge, alors il est arrivé au 24 décembre au soir, il a fait une fête de 8 jours jusqu'au 1er janvier. N'est-ce pas ? Cette fête, dit la Guémara, est devenue la fête des Saturnales à Rome. Il y avait une fête à Rome, la fête des Saturnales, qui était liée au dieu Saturne, évidemment, et qui était liée également au fait qu'il y a un plus grand resplendissement de la lumière à partir de ce moment-là. Eh bien, c'est, disons, en gros, moyennement, si vous faites la moyenne sur de nombreuses années, ça tombe à peu près à Hanouka, n'est-ce pas ? Et donc, c'est devenu d'ailleurs chez les chrétiens aussi, ils ont fait une fête avec ça, ils ont appelé Noël, et ils ont inventé que leur fondateur était né à ce moment-là, parce qu'ils voyaient en lui la lumière. D'accord ? Et donc, en fait, ça veut dire que depuis très longtemps, la fête, le 25 du mois de Kislev, était le jour de la lumière, surtout que c'est le 25e mot de la Torah, c'est lumière, n'est-ce pas ? Lumière. Et c'est dans le 3e verset, parce que c'est dans le 3e mois à partir de la création du monde, dont tout s'explique. D'accord ? Maintenant, pour tout vous dire, c'est pas tout à fait un hasard, enfin, c'est même pas tout à fait sans signification, le fait qu'il y a un rapport entre le 25 qui se lève, notre fête de Hanouka, et la fête des Goïm. Il y a un rapport, mais je vous demande un peu de patience. Tout d'abord, essayons de comprendre un peu ce qui s'est passé avec la fête de Hanouka. Vous savez que la Gemara nous dit que l'obscurité dont il est question dans la création du monde, ben cette obscurité, c'est la Grèce. Puisque la Torah nous dit que le monde était bouleversé à son origine, Tohu, Bohu, Krocher, Théom. Tohu, c'est Babylone. Bohu, c'est la Perse. Krocher, l'obscurité, c'est la Grèce, qui a obscurci les yeux d'Israël. Et Théom, l'abîme, c'est Rome. C'est Rome. D'accord ? Et Rome avec ses douceurs, Rome, sweet Rome. Et donc, il y a. C'est l'étoile. Voilà, par contre, pas. Et donc, pour en revenir à Moudon, c'est que, à l'époque, la Guémara est très, très sévère envers les Grecs. On dit c'est l'obscurité. Et ça ne tient pas la route, cette histoire. C'est-à-dire, de toutes les civilisations, les Chachamim ont décidé de désigner la Grèce par le terme de obscurité. Mais c'est de l'obscurantisme de dire une chose pareille. Vous vous rendez compte ? La Grèce qui nous a donné l'esprit scientifique, la méthode scientifique, les arts, l'esthétique, la démocratie, la philosophie, et les Juifs ont trouvé à dire de tout cela que obscurité. Donc ça ne va pas la fête. D'accord ? C'est incroyable. Il y a un midrash qui dit par exemple qu'Alexandre le Grand est appelé le triple bélier, Aïl Amushulash. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la conquête du nord, du sud et de l'ouest du monde, mais n'a pas réussi à vaincre l'est. Parce que l'est, c'est l'origine de la lumière. Donc à nouveau, vous voyez, conflit obscurité et lumière. Et donc les Chachamim n'aiment pas les Grecs. C'est incroyable. Surtout que il faut savoir que les Grecs, eux, ils nous aimaient. Oui, les Grecs, ils aimaient les Juifs. Il y a beaucoup de témoignages. Je vous en donnais un parmi tant d'autres. Il y avait un philosophe du nom d'Aristote, dont vous avez certainement entendu parler, et dont qui avait un élève du nom de Cléarque. Cléarque. Alors, on ne peut pas s'appeler tous Dupont, mais enfin, il s'appelait Cléarque. C'est pas un mal, il s'appelait Cléarque. Et Cléarque raconte la rencontre entre son maître, Aristote, et un sage juif, du nom de Shimon. Simon, dit-il en grec. D'accord ? Le Shimon, le sage juif du nom de Shimon, que nous connaissons de l'époque d'Aristote, c'est Shimon, lequel ? Atzadik. C'est pas n'importe qui, c'est un des grands prêtres. C'est le dernier de la grande assemblée, c'est pas n'importe qui ce Shimon Atzadik. Et Cléarque raconte que Aristote avait beaucoup de plaisir à s'entendre avec ce Shimon, qui était tellement sage et tellement versé dans les sciences qu'on aurait pu croire qu'il était grec. Bon, ça fait déjà un premier X, et là qu'on voit de quelle manière les Grecs jugent une civilisation. Est-ce qu'elle ressemble à la ou pas ? Pareil. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une certaine admiration. Non seulement ils ont admiré, mais quand ils ont découvert la Torah, les Grecs ont découvert la Torah un jour, et bien ils en étaient pas. Ils en sont tombés d'admiration. La preuve, ils ont décidé de traduire la Torah en grec. Et cette traduction, ce n'était pas simplement un travail, vous savez, en cagili, quelqu'un qui, dans l'obscurité, tape à sa machine. Non, pas du tout. C'était une grande entreprise, les 70, 70 sages ont été invités de Jérusalem à Alexandrie pour faire la traduction. C'était pour les Grecs un jour de fête. À nouveau, les Chachamim disent, le jour où la Torah a été traduite en grec, il y a eu de l'obscurité dans le monde pendant 3 jours. Franchement, on te fait une tova, on traduit en grec, tu devrais être content, et puis non, on dit c'est l'obscurité.
Michel, dans les temps de l'effet, c'est quand même une admiration.
Oui, alors ça ne veut pas dire, il y a des Mishnayot qui disent qu'on traduit, qu'on peut même lire la Torah en grec dans les synagogues, et ça se faisait à une certaine époque. Ça veut dire qu'il y a une ambivalence, il y a une chose qui n'est pas très claire dans cette histoire. La Gemara dit que la plus belle des langues, c'est le grec. D'accord ? Et même d'ailleurs, le Rachmon Mourono, il va vous chanter des chants en grec tout à l'heure.
Le bouzouki,
c'est ça ? D'accord. Enfin, je ne sais pas, si vous avez été, voir l'Acropole, hein, c'est joli, non ? Il y a de là, il y a de la réflexion là-dedans. Mais tu peux t'asseoir. Il y a des chaises, il y en a plein. En petit, voilà. Mais. Vous voulez bien donner des chaises à ce jeune homme ? Plus qu'une chaise, ça sera utile. Vous voyez. Bon. Et donc, on se demande ce que les Chachamim ont contre les Grecs. En fait, pour tout vous dire, quand il y a la seule chose qui peut obscurcir une lumière, c'est une autre lumière. Or, il y a déjà une lumière chez nous. Et il y a une interférence de la lumière grecque qui obscurcit notre lumière. C'est justement parce que nous savons à quel point la Grèce est lumineuse que nous avons pu dire qu'elle nous a obscurci les yeux. C'est quand vous regardez quelque chose de très brillant, vous êtes obligé de fermer les yeux. D'accord ? Ça éblouit. Effectivement, les Juifs ont été éblouis par la sagesse grecque. Mais justement, c'est ça le problème. Il y a un texte de Rabbi Saadia Gaon dans lequel il explique pourquoi est-ce que qui explique où est-ce que la Torah a parlé de la victoire des Hashmonaïm. Je vous viens que la Torah en ait parlé. C'est une chose tellement importante. Il est impossible que la Torah n'ait rien dit, au moins par allusion, à cet événement. Et Rabbeinu Saadia Gaon trouve l'allusion à Hanouka dans la bénédiction que donne Moshe à la tribu de Lévi. Les Hashmonaïm étaient des Kohanim. Les Kohanim sont de la tribu de Lévi. Et donc, dans la bénédiction que donne Moshe à Lévi, se trouve l'allusion. Où est-ce qu'il est écrit ? Barech Hashem Helo. Éternel bénit son armée. C'est-à-dire qu'il y avait une guerre dirigée par les fils de Lévi. Ufoal Yadav Tirtse, agré l'action de ses mains. Mechatz Motnaim Kamav, frappe à la hanche ses ennemis. Et Rabbeinu Saadia Gaon dit, c'est une erreur, il ne faut pas dire comme ça. Ça veut dire frappe à la hanche, mais frappe la hanche qui est son ennemi. La hanche, Motnaïm, les hanches, c'est les ennemis du régime. C'est ce qui se passe avec les Soukaniens. Ça prend 30 minutes à préparer, 3 minutes à manger et 30 ans sur les hanches. En tout cas, donc il y a probablement un rapport. Mais ce que dit Rabbi Salégon, les hanches désignent la graisse. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il a trouvé dans le livre de Daniel que le roi Nabucodonosor, quand il avait soif, il n'a bu que du nosor. Et donc, il a vu en rêve un colosse fait de plusieurs métaux qui représente les empires de l'histoire. Et en haut, il y avait une tête en or qui était Babylone. Et puis, la poitrine et les mains étaient les bras et en argent, c'était la Perse, et les hanches en cuivre, c'était la Grèce, et les pieds étaient en fer et en argile, un colosse aux pieds d'argile, donc cette expression, c'est Rome. Donc on voit bien que déjà chez les prophètes, les hanches de cuivre représentaient la Grèce. Il dit, mais pourquoi la Grèce est représentée par les hanches? Parce que c'est le lieu de l'inceste. Le lieu de la sexualité, c'est là-bas. Or, c'était ça, la fascination des Grecs. C'est vrai que chez les Grecs, il y a une pensée extrêmement abstraite, éthérée et tout le reste, mais elle est directement liée à une sorte de débauche de l'exaltation du corps, qui s'exprime dans le gymnase et tout ce que ça représente. C'est pour ça que la première chose qu'ont fait les Hellénisants à Jérusalem, c'était de fonder un gymnase, pas de profaner le temple. Ils ont fait un gymnase à côté du temple. Ce n'est pas censé déranger qui que ce soit. Et bien pourtant, ça a dérangé. Et le cuivre, c'est quoi? Vous avez déjà vu du cuivre, certainement. On peut le faire briller très fort. Ça ressemble à de l'or, mais c'est beaucoup moins cher. Et ça correspond à ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. Ne sois pas tenté par la sagesse des Grecs. Acherène la pérote, parce qu'elle n'a pas de fruits. Kimperachim, elle n'a que des fleurs. C'est-à-dire, il y a de l'extériorité. Finalement, même la philosophie, qui est la création la plus forte des Grecs, ça tourne autour du pot. Vous savez ce que veut dire philosophie? C'est aimer la sagesse. Ce n'est pas la sagesse elle-même. C'est la structure conceptuelle qui permet de parler de la vie, mais ce n'est pas la vie elle-même. C'est pour ça que chez nous, pour dire un sage, on dit chacham, c'est la même gématria que le mot chayim, la vie. Chacham, gématria, chayim, c'est la même chose. Enfin, donc, pour en revenir à l'admiration qu'avaient les Grecs pour les Juifs, il faut bien comprendre que cette admiration était extrêmement problématique de notre point de vue. Parce que ça veut dire quoi traduire la Torah en grec? Ça veut dire lui donner un respect extraordinaire, puisqu'elle est maintenant sauvée de l'oubli. Elle était gardée chez les Juifs, très gentils les Juifs. Merci beaucoup les Juifs d'avoir gardé ce texte de sagesse comme patrimoine de l'humanité. Maintenant nous allons enfin sauver ça de l'oubli en traduisant ça dans la langue de la culture générale. Et ça sera une place d'honneur dans la bibliothèque d'Alexandrie, à côté des œuvres de Platon et d'Aristote. Mais finalement, ça veut dire que la Torah n'est qu'une sagesse. C'est-à-dire, c'est la lumière de la Torah est une lumière pâle, un peu à la manière d'un néon blanc, comme il y en a ici. D'accord ? C'est pas de la chaleur. Il n'y a pas ici de révélation, il n'y a pas ici une parole du Créateur. C'est la raison pour laquelle, dans le texte que nous avons à la Nissim, dans les prières de Hanouka, on dit, lorsque l'empire scélérat des Grecs s'est levé contre ton peuple Israël, les Ashkiham mitoratecha, pour les faire oublier de ta Torah. Les Ashkiham mitoratecha, c'est ça la version originelle, celle qui est gardée par mon frère Sephara, et les Ashkiham mitoratecha. C'est-à-dire que les Grecs ont voulu garder la Torah et supprimer Israël. Et vous pensez que cela était possible? Vous êtes prêts là? Non. Une pensée de ce genre a été possible à une époque où il n'y avait plus de prophètes. Tant qu'il y avait des prophètes, on savait que la Torah est une parole, que c'est Dieu qui parle à son peuple. À partir du moment où les prophètes ont cessé de parler, alors on a pu penser que la Torah était une sagesse. Ce qui a causé une grande angoisse chez les Hashmonaïm. Parce que quand ils ont vu ça, ils se sont dit peut-être que la victoire militaire que nous avons eue était uniquement une victoire militaire. Il a fallu pour cela, pour sortir de cette angoisse, un clin d'œil sous forme du miracle de la fiole d'huile pour dire que Dieu ne se fiche pas de notre fiole. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas oubliés. Même dans un temps où les prophètes ne parlent plus, et bien pourtant, ça vous a fait rigoler, même dans un temps où Dieu ne parle plus, il intervient à travers l'histoire de son peuple, qui est une sorte de colonne vertébrale de l'histoire. Maintenant, puisque je vous ai tellement saoulé, je voudrais quand même dire quelque chose à propos du rapport entre la fête des Goïm et la nôtre à Hanouka. Quel est le contenu de la victoire des Hashmonaïm? Les Hashmonaïm ont une victoire extraordinaire puisqu'ils ont restitué l'indépendance d'Israël et qu'ils ont purifié le temple. Mais vous savez, ils ont fait encore autre chose. Ils ont fondé le christianisme. Ils ont fondé le christianisme. Le christianisme. C'est une raison très simple. S'il n'y avait pas eu... C'est pas de leur faute, hein. Mais c'est indirectement de leur faute. Je vais expliquer pourquoi. S'il n'y avait pas eu le miracle de Hanouka, il n'y avait pas eu la révolte, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, le temple de Jérusalem aurait, disons, plus ou moins continué à fonctionner. Peut-être qu'il y aurait eu un compromis avec les Grecs. En tout cas, il y aurait eu encore quelques familles d'enfants d'Israël qui, en Judée, auraient continué à pratiquer le monothéisme. Il y avait d'ailleurs des communautés juives en Babylonie qui n'étaient pas inquiétées par les Grecs et qui pratiquaient dans leur synagogue le monothéisme. Il y avait même d'ailleurs des juifs à Alexandrie qui eux aussi n'étaient pas inquiétés. Donc le monothéisme et le judaïsme seraient continués. Ça aurait été un folklore. Un folklore intéressant, les touristes seraient venus dans l'Empire Séleucide ou l'Empire des Ptolémées pour voir qu'il y a encore des gens qui croient en un seul Dieu et qui n'ont pas d'idole. C'est intéressant quand même. C'est un peu comme on va voir un peu les Amish aux États-Unis. Il y a une secte comme ça. Hein?
Et les Indiens.
Les Indiens. Alors il y a des Indiens juifs aussi. C'est intéressant les Indiens juifs. Mais ça n'aurait eu aucun impact sur l'histoire des hommes. À partir du moment où il y a eu un royaume, un État juif, alors nous sommes entrés sur la scène internationale. À partir du moment où nous sommes entrés sur la scène internationale, les goyim ont commencé à se dire « Tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ?» Là, l'influence du judaïsme est devenue de plus en plus forte. Et c'était justement au moment de la chute de la philosophie grecque. C'est là qu'elle est entrée en décadence. Et cette fascination du judaïsme a été à l'origine du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme, bien qu'étant idolâtre, a quand même certains avantages puisqu'il a permis la diffusion, c'est ce que dit le Rambam, il a permis la diffusion de la Bible. C'était pour ça qu'on dit dans Al-Nissim, « Ulecha asita shem kadosh ve kadosh b'olamecha »« Tu t'es fait un grand renom dans ton monde » Ou la Israël, la situation de la Kéramazé, et à ton peuple Israël, tu as fait une grande délivrance comme ce jour. Mais c'est-à-dire que dans l'événement de Hanouka, il y a un événement universel. C'est à partir de ce moment-là que le judaïsme a commencé à être important dans l'histoire des hommes. Et cette histoire, qui a commencé le 25 Kislev à l'époque, a commencé à s'achever lors du 25 Kislev de l'année 1917 avec la conquête de Jérusalem par l'ennemi. En fait, il y a tout un cycle qui est en train de se faire, qui est en train de se boucler, et parce que c'est justement, puisque nous avons maintenant réussi là où les Hashmonaïm ont échoué, c'est la raison pour laquelle nous, dans l'État d'Israël, nous avons maintenant une mission. Et cette mission, c'est justement la diffusion de la parole de Dieu dans le monde entier. Mitzion, Tetzetora, Mouvar, Hachem, Yerushalayim, c'est pas moi qui le dis, c'est les prophètes. Et c'est une des raisons d'être, d'ailleurs, de ce lieu que nous vous recevons ce soir, qui s'appelle Beit Shalom Yochav, mais dans laquelle nous avons l'organisation Berit Olam, qui a pris comme projet, entre autres, d'enseigner aux Goïm qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend d'eux. Voilà, et merci de votre attention. Pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas rester ce soir très longtemps avec vous, mais j'espère que le Rav Fison et le Rav Moreno vont vous faire une belle soirée. Chag Sameach. Thank you.